Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Audible Studio présente L'Apothicaire de Henri Leuvenbruck, lu par Jean-Christophe Lebert. Il est permis de violer l'histoire à condition de lui faire un enfant. Alexandre Dumas. À Paolo, Emmanuel et Christophe, qui roulèrent avec moi jusqu'en Galice. Livre 1. Où l'on rencontre Andreas Saint-Loup à Paris et la jeune Alice en pays occitan, et où il est traité de ce qui les mena l'un et l'autre sur les routes. Chapitre 1. Il vécut à Paris en l'an 1313 un homme sans famille qui allait du nom d'Andreas Saint-Loup, mais que d'aucuns appelaient l'apothicaire. Et quand on le désignait ainsi, nul n'ignorait qu'il s'agissait de celui-là, bien qu'il y eût de nombreux autres hommes exerçant la profession dans la capitale. Car il était à la fois le plus illustre et le plus mystérieux des préparateurs de potions, onguents, drogues et remèdes que l'on put trouver dans la ville, et peut-être même dans le pays tout entier. Des divers adjectifs qui pouvaient qualifier l'homme, s'il n'eût fallu en retenir qu'un, on eût aisément dit de lui qu'il était sibyllin, en ce sens que ses paroles comme ses actes étaient aussi obscurs, mystérieux et impénétrables que ceux des oracles de l'Antiquité. Et son passé, au reste, demeurait pour tout Paris une véritable énigme. Même pour l'abbé Boussel, l'homme qui l'avait trouvé, recueilli et élevé non loin de là, dans l'abbaye de Saint-Magloire, et dont nous aurons l'occasion de reparler plus tard. Quand on venait quérir dans son officine quelques médicaments et qu'on expliquait son mal, il restait silencieux un instant, comme s'il n'avait point de réponse à fournir, prenait un air absorbé, presque distant, puis il disparaissait dans son laboratoire et revenait enfin avec une préparation dont il ne disait souvent rien, mais qui toujours apportait au patient toute satisfaction. La scène, inlassablement, se jouait dans un silence théâtral. Plus d'une fois, on le vit corriger discrètement le diagnostic d'un illustre médecin, bien que cela fût rigoureusement interdit par les maîtres de la profession, et proposer à ses visiteurs une cure différente de celle préconisée par le supposé savant. Et alors, dit-on, jamais il ne se trompait. On raconte même qu'il soigna bien des pauvres âmes que la médecine avait depuis longtemps abandonnées, et qu'il ne se privait jamais de faire payer davantage ses clients les plus aisés pour assurer, sans la moindre ostentation, la gratuité aux démunis. Cela encore contredisait le serment prêté par les maîtres pharmaciens. Mais l'homme était un iconoclaste, et faisait passer la santé de ses semblables avant le respect de sa confrérie, ce qui lui valut, comme on le découvrira, quelques mésaventures. Dans le quartier qu'il occupait au cœur de la rue Saint-Denis, qui était en ce temps celle des apothicaires, des épiciers et des celliers, et où était installée sa boutique, tout le monde connaissait sa figure, non seulement parce qu'il était un personnage majeur de la vie quotidienne de tout le voisinage, mais aussi parce que sa physionomie n'était pas ordinaire. Et nous la tracerons ici brièvement. S'il n'était pas de ces beautés évidentes qui font l'unanimité, et bien qu'il approchât 40 ans, il ne manquait pas d'attirer le regard sur son passage, notamment celui des femmes et même des plus jeunes. C'était un homme de taille moyenne et d'une saine corpulence, mais dont la posture, qui eût pu passer pour suffisante aux yeux d'un observateur hâtif, le faisait paraître plus grand. Il avait la peau tannée et le teint hâlé des hommes du Sud, ce qui permettait à certains d'affirmer qu'il possédait d'exotiques origines, encore que nul ne pût dire précisément d'où il venait, puisqu'il avait été un enfant abandonné. Il avait le visage oblong et fermé, creusé en haut des joues, si bien qu'il semblait toujours fatigué ou tout au moins préoccupé. Ses yeux noirs, soulignés de cernes épais, brillaient d'un reflet d'argent, comme si deux petites lunes d'hiver, la nuit de sa naissance, étaient venues se graver à jamais au bord de ses pupilles. Son nez aquilin, courbé comme le bec d'un aigle, lui donnait un air conquérant qu'accentuait encore sa manière de regarder les gens en inclinant